Bonjour à tout le monde. Nous avons encore le bonheur et la joie de nous voir. C'est une grâce de nous voir. C'est une grâce pour moi de vous voir. L'inverse n'est peut-être pas vrai, mais ça, c'est pas grave. On va faire avec. Et c'est une joie aussi de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. En ce matin, et c'est ce que nous allons faire, nous allons faire une courte lecture dans les Actes des Apôtres, au chapitre 18. Actes chapitre 18. Et là, nous allons lire très peu de versets, donc nous allons lire les versets 24 à 28. Acte 18, versets 24 à 28. Il est écrit ceci: Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Comme il voulait passer en Achaïe, les frères l'y encouragèrent et écrivirent aux disciples de le bien recevoir. Quand il fut arrivé, il se rendit par la grâce de Dieu très utile à ceux qui avaient cru, car il réfutait vivement les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Jésus est le Christ. Amen. Nous sommes dans une société où tout va très vite. Nous sommes dans une société où tout va toujours plus vite, quels que soient les domaines, que ce soit les domaines technologiques, scientifiques, économiques, sociaux, tout va absolument très vite. Dans certains domaines, on peut dire, notamment les domaines technologiques, on peut dire que nous sommes l'époque, la génération qui va le plus vite dans les innovations. Nous sommes dans un monde qui va extrêmement vite. Le monde va toujours plus vite, le monde va toujours plus loin, le monde est constamment en phase d'accélération. Il y a des sociologues qui parlent de ce mouvement d'accélération du monde dans lequel on sent que l'on avance et que tout va vite. On a souvent l'impression qu'on n'a pas le temps d'avoir passé une étape, qu'on est déjà à la prochaine. Alors c'est facile dans le domaine de la technologie, mais dans d'autres choses aussi. On sent que tout va très vite. Et la société non seulement va vite, mais elle nous demande aussi d'aller vite. Il faut faire vite, il faut produire plus, il faut inventer plus, il faut aller toujours plus haut, toujours plus fort, il faut taper au-dessus. Et celui qui ira le plus vite et le plus loin sera le plus extraordinaire, le plus acclamé. Le problème, c'est que lorsque l'on va vite, lorsque l'on fait beaucoup de choses, lorsqu'on fait ce qui est spectaculaire, lorsqu'on va à gauche, à droite et qu'on essaie toujours de courir le marathon, il arrive souvent que l'on manque de profondeur. On va vite, mais on ne sait pas où on va. On va vite, mais on n'a pas l'occasion de faire les choses dans la profondeur. On va vite, mais on est superficiel. Et notre société, à cause de la vitesse qu'elle nous impose, impose aussi à beaucoup d'entre nous d'être des gens superficiels. Pas vous, heureusement, mais les autres, tous ceux qui ne sont pas dans cette salle, hein, eh bien, nous avons une tendance comme ça à être terriblement superficiels parce que c'est ce qu'on nous demande. Dans le texte que nous avons lu aujourd'hui, nous avons l'explication, la présentation d'un personnage de la Bible qui s'appelle Apollos. C'est un homme dont il nous est dit qu'il était très éloquent et puissant dans les Écritures. Il connaissait très bien les Écritures. Il était très instruit dans les voies du Seigneur, il connaissait bien l'enseignement de la Bible et il partageait autour de lui ce qu'il avait compris de la parole de Dieu. Le texte nous dit que son enseignement était d'une grande exactitude. Il était fervent et il enseignait avec enthousiasme au sujet de Jésus. on voit que Apollos est un personnage qui nous est présenté comme étant versé dans les Écritures, il connaissait la parole de Dieu, il était vigoureux, il était puissant, il parlait avec précision, c'était un homme profond. C'était un homme profond, c'était un homme qu'on aimait écouter, c'était un homme avec qui on apprenait des choses, c'était un homme avec qui on se sentait progresser, c'était un homme, pour dire un autre mot, consistant. Consistant dans ce qu'il disait, consistant dans ce qu'il faisait, consistant dans son partage. Et les gens autour de lui pouvaient reconnaître en lui un homme profond, un homme habité par quelque chose de profond. Pour ceux qui s'en souviennent, en septembre, le premier dimanche de septembre, nous avons parlé de cette importance de rester des étudiants. En tant que disciples, de rester constamment des étudiants, de rester constamment des personnes qui apprennent des choses. Et Apollos est un bon exemple d'un homme qui est resté étudiant, qui est resté apprenant, qui a continué sans cesse à se laisser remplir, à se laisser instruire pour pouvoir être utilisé par Dieu au service des autres. Apollos n'était pas quelqu'un d'improvisé. Ce n'était pas un gars qui s'est élevé comme ça un matin et qui... Ce n'était pas quelqu'un d'imprécis qui disait des choses à moitié vraies, à moitié faux. Ce n'était pas quelqu'un de superficiel. Vous voyez quelqu'un qui fait beaucoup de bruit et puis après, il n'y a rien derrière. Ce n'était pas quelqu'un qui paraissait mais qui n'avait aucune consistance. C'était quelqu'un qui était rempli, qui était profond. Et on voit que derrière le vernis d'Apollos, il y avait quelque chose. Vous savez bien qu'il est très facile d'être impressionnant quand on est devant quelqu'un qui ne connaît rien à un domaine. Hein, si vous avez appris une prise de judo, une seule, et que vous la faites devant quelqu'un qui ne connaît rien au judo, il va dire « mais t'es terrible, toi, t'es vraiment le meilleur, comment tu fais pour faire ça ?» Parce qu'il n'y connaît rien. C'est facile si vous parlez d'économie avec quelqu'un qui n'en connaît pas un seul mot, de l'éblouir par votre connaissance et votre savoir. Mais Apollos, ce n'était pas un homme qui paraissait beaucoup et qui n'était rien du tout, il était profond dans tout ce qu'il faisait. Et c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Dieu nous appelle en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu qui sont en marche sur le chemin de Christ, à être toujours des apprenants, à être constamment des élèves, à être constamment des étudiants. Et Dieu nous appelle à être des personnes profondes, des personnes qui aspirent et qui marchent sans cesse et sans fin dans la profondeur. Avoir une vie de profondeur, avoir une foi de profondeur. Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens superficiels, de qui on peut dire plein de choses en surface et se dire « ah oui, il connaît ». Dieu nous appelle à être des personnes profondes. Dieu nous appelle à être profond dans notre relation avec lui avant tout, dans notre marche avec le Seigneur. Dieu nous appelle à être profond dans notre caractère, dans nos vertus. Dans le texte de 2 Corinthiens 8, verset 7, il est dit « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Donc vous excellez, il dit à l'Église de Corinthe, vous excellez en foi, vous excellez en parole, vous excellez en connaissance, vous excellez en zèle et vous pouvez aussi exceller en amour pour nous. Dieu nous appelle à cette excellence. Alors évidemment, ça n'a pas bonne presse dans nos églises parce que effectivement, on se dit oui, mais bon, il ne faut pas en faire des caisses, il ne faut pas toujours en rajouter. Et pourtant, vous voyez que c'était le profil des chrétiens de cette église, ils étaient profonds. Dieu nous appelle à être profonds de notre compréhension de la parole, de sa volonté. Dieu nous appelle aussi à être profonds dans nos relations les uns avec les autres. Il nous appelle à établir les uns avec les autres des relations de valeur, des relations de profondeur. Dieu nous appelle à être profonds dans notre vie d'église, dans nos activités. Si nous prions, ce doit être avec profondeur. Si nous parlons, ce doit être avec profondeur. Si nous servons dans l'Église, ce doit être avec profondeur. Si nous aidons quelqu'un ainsi, quel que soit ce que nous faisons, nous sommes appelés à le faire avec profondeur, avec la profondeur de ceux qui sont habités par la présence de Dieu, habités par la connaissance de Dieu, habités par la parole de Dieu. Et le monde dans lequel nous vivons a besoin de chrétiens consistants, a besoin de chrétiens habités. Pas de chrétiens qui savent à peu près, qui ont connu à peu près, qui ont lu des versets à gauche, à droite, de chrétiens qui ont un bagage venant de Dieu. Dans Philippiens 8, 9 à 11 encore, nous avons cet encouragement à l'excellence. Il est dit « Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. » Donc je demande que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Pourquoi ? Pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Je prie pour que votre amour augmente de plus en plus en connaissance en intelligence, pour que vous puissiez être des gens qui discernent les choses les meilleures. Discerner les choses les meilleures. On est appelé à être des gourmets dans notre vie avec Dieu. Tellement profond que nous faisons des choix réfléchis, tellement attachés à Dieu, tellement connaissant sa parole, que nous faisons des choix réfléchis, nous discernons les choses les meilleures dans nos vies. Nous discernons les choses les meilleures dans notre vie d'église. Nous discernons les choses les meilleures. Si Dieu nous a sauvés en Jésus-Christ, c'est quelque chose qui est important à rappeler. C'est que, et je pense que nous l'avons rappelé il y a quelque temps, ça ne nous a rien coûté d'être sauvés, à nous. Mais ça a coûté quelque chose à Dieu. Mais lorsque Dieu nous a rachetés, lorsque Dieu a envoyé Christ pour verser son sang pour nous, il ne l'a pas fait pour que nous soyons des gens de l'à peu près. Il ne l'a pas fait pour que nous soyons des chrétiens de façade, des chrétiens de... Il l'a fait pour que nous soyons, comme dit la Bible, l'épouse de Jésus-Christ, sans tache, sans ride, sans rien de répréhensible. Il nous appelle à être profond. Être profond, ce n'est pas être quelqu'un de compliqué. La profondeur, ce n'est pas dans la tête. Ce n'est pas d'utiliser des mots compliqués pour parler. Il y a des gens qui font ça. Ils font exprès d'utiliser des mots compliqués, comme ça on ne les comprend pas, ils ont l'air intelligents. Vous connaissez des gens comme ça ? C'est pas ça. Être profond, c'est pas chercher à être original. Il s'agit pas de se lever et de vouloir inventer des nouvelles choses pour que les gens nous acclament. Être profond, c'est avoir quitté le niveau de la superficialité des choses, de ce qui est déjà connu, de ce qui est visible, pour aller en profondeur, pour aller dans une profonde connexion avec les choses. Nous avons dans la Bible, nous l'avions lu il n'y a pas longtemps, un texte qui nous parle, dans Colossiens 1, 8, 9 plutôt, qui nous parle de l'appel que nous avons. C'est pour cela aussi que depuis le jour où nous avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. En toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être agréable, entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérant et patient. Qui met la barre ? C'est la parole de Dieu elle-même. Je prie pour que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, pour lui être agréable, pour porter du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et pour croître sans cesse dans la connaissance de Dieu. Voilà le profil de l'étudiant que nous sommes appelés à être. Appelés sans cesse à grandir dans notre connaissance, notre marche avec le Seigneur. Il arrive souvent dans notre monde en général, mais ça arrive aussi dans l'Église, que nous nous agitions énormément, que nous fassions de bruit énormément, sans trop savoir où nous allons et sans mettre les priorités et les accents au bon endroit. Ce siècle nous y encourage. On court, on fait beaucoup, mais Dieu nous appelle, lui, à descendre aux profondeurs. Dieu ne nous appelle pas à nécessairement étendre, à nous étendre du point de vue superficiel, mais Dieu nous appelle à descendre aux profondeurs et à aller toujours plus loin dans notre connaissance de Dieu. Pourquoi faut-il chercher la profondeur ? Pourquoi c'est important d'être profond ? Pourquoi c'est important d'aspirer à ce que ces textes nous disent ? Premièrement, parce que lorsque l'on reste en surface, on manque beaucoup de choses. C'est dans les profondeurs que l'on apprend à connaître les tenants et les aboutissants d'une chose. C'est dans les profondeurs qu'on apprend à discerner le vrai du faux, à discerner l'indispensable de l'accessoire. Lorsqu'on se tient en surface, tout a l'air toujours simple, tout a l'air toujours clair. C'est quand on se penche avec attention sur quelque chose qu'on arrive à en comprendre tous les éléments, à en discerner ce que c'est et à savoir exactement où l'on va. Une maman me faisait rire, peut-être que je l'ai déjà raconté, parce qu'elle m'expliquait que son fils, lorsqu'il était jeune, il devait faire des résumés de lecture. Il n'aimait pas lire les livres. Et donc, ce qu'il faisait, c'est qu'il lisait le début du livre, il lisait la fin du livre, il mettait le début au début du résumé, et puis il mettait la fin en fin du résumé, et au milieu, il inventait n'importe quoi. Et donc, le petit Paul est allé acheter des bonbons, et puis il disait n'importe quoi, et donc son résumé était fait, enfin voilà. Et alors, elle arrivait, elle disait, mais ça n'a aucun sens, ton histoire, ça ne veut rien dire. Et donc, quand on se penche sur la chose, on arrive à se rendre compte qu'il y a un truc qui cloche. Mais si vous ne faites que lire les premières phrases, vous direz « Oh, ça va, c'est bon ». Mais une fois qu'on se penche sur quelque chose, une fois qu'on fait les choses avec attention, avec investissement, alors on se rend compte réellement de ce qui est. C'est lorsque l'on se penche sur les choses qu'on peut arriver à discerner les choses réellement. Vous connaissez ce texte de Romains 12 qui nous dit que nous sommes appelés par le renouvellement de notre intelligence à discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. On a besoin de se pencher sur les choses pour en comprendre quelque chose. C'est quand on se penche sur les choses qu'on comprend les vrais problèmes. Imaginez-vous qu'à chaque fois que vous allez chez votre garagiste et que vous lui dites « ma voiture a un problème, il faut changer le moteur ». Vous allez chez votre garagiste plusieurs fois et à chaque fois « ah oui, il y a un problème, il faut changer le moteur ». Vous allez vous dire, mais non, il y a un problème. Pour que le garagiste sache quel est le problème, il va devoir se pencher avec profondeur sur la chose. Il va devoir donner de l'attention, il va devoir y regarder, il va devoir aller plonger ses mains dans les choses. Et c'est comme ça qu'il pourra vous donner une réponse adaptée. C'est lorsqu'on va plus loin que l'on apprend à connaître ce qui est nécessaire. C'est lorsque l'on va plus loin que l'on peut faire avancer les choses. Chaque nouveau défi que nous affrontons demande un nouveau niveau de profondeur. Et on le voit dans le chapitre des Actes que nous avons lu, parce que Apollos, il nous est dit qu'il avait une grande connaissance, qu'il connaissait beaucoup de choses de la parole de Dieu, mais il avait des manques. Notamment, il ne connaissait pas le baptême de Jean. Il avait bien plein de connaissances, mais il avait encore des manques sur certains sujets. Et le texte nous dit que Apollos a accepté d'être enseigné, instruit par Aquilas et Priscille, qui lui ont expliqué un peu mieux la pensée de Dieu. Et lorsqu'il est arrivé en Achaïe, il a été d'un grand secours aux croyants. En d'autres termes, il connaissait beaucoup de choses, mais il acceptait d'aller encore plus loin. Il a accepté d'apprendre encore plus. Et quel est le résultat ? C'est qu'il a pu être utile à Dieu dans la nouvelle région où il est arrivé. Peut-être qu'il aurait été complètement inutile s'il n'avait pas accepté d'avoir ces informations en plus. Il avait déjà son bagage, mais il allait toujours un peu plus loin. Et avec ça, il était toujours plus utile à Dieu là où il était envoyé. La profondeur nous rend pertinents, nous rend adéquats. Lorsqu'on nous interroge sur notre foi, lorsqu'on nous interroge sur ce que nous croyons et que nous avons à répondre, nous sommes pertinents. Ce que nous disons a du sens pour les gens. Les gens comprennent que nous avons fondé notre vie sur quelque chose de sensé. Les gens comprennent que si nous avons des convictions par rapport à tel ou tel sujet, ce n'est pas comme ça, c'est que nous avons réfléchi et intériorisé les choses. C'est ça la profondeur. Ça nous rend pertinents pour défendre notre foi, ça nous rend pertinents pour annoncer notre foi, ça nous rend pertinents pour vivre au milieu des autres, ça nous rend pertinents pour glorifier Dieu. Quand on est profond, imaginez quand on dit le texte d'avant, quand on est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu, on peut prendre de très bonnes décisions. Quelqu'un, imaginez, c'est le texte, vous l'avez lu. Je prie pour que vous soyez rempli de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Imaginez-vous un bonhomme. Il est là, et le type, vous dites une chose, il est rempli de toute la connaissance de la volonté de Dieu en toute sagesse et en toute intelligence spirituelle. Quel type de décision va-t-il prendre ? Des bonnes décisions. Quand il devra faire des choix, ce seront des bons choix. Parce qu'il est rempli de la connaissance de la volonté de Dieu. Il est rempli d'intelligence et de sagesse spirituelle. C'est en étant profond aussi que nous pouvons toucher davantage de personnes. Et on le sait d'ailleurs, lorsqu'on annonce Christ, lorsqu'on annonce Jésus, bien évidemment qu'on doit annoncer le cœur du message de l'Évangile, mais on est aussi confronté aux questions des gens, on est aussi confronté aux remarques des gens, on est aussi confronté à tout ce que les gens peuvent avoir à dire. Et donc au plus je suis profond, au plus je peux répondre à ce que les gens disent. Confère la formation de Benoît sur les musulmans. Si je ne sais rien de rien de rien, et que je dois... Comment je fais pour être pertinent face à cette personne qui me parle si je ne connais pas, si je ne sais pas? La profondeur nous rend pertinents. Dieu peut nous utiliser. Lorsque nous sommes profonds également, nous pouvons établir une communauté profonde, une communauté forte, des relations fortes, lorsqu'on ne se contente pas de la surface. Nous avons besoin d'être des étudiants qui grandissent en profondeur et d'être de plus en plus des gens consistants. Consistants dans l'Église, consistants dans nos familles, consistants dans nos rencontres, à cause justement de ce dont nous sommes habités. Alors premièrement, la profondeur dépend de notre relation avec Dieu. Pour vivre, pour être un chrétien profond, nous avons besoin d'avoir un réel contact avec Dieu, un contact réel qui opère des changements significatifs dans notre personne. Contact réel avec Dieu qui opère des changements significatifs dans notre personne. J'ai besoin d'avoir une vie spirituelle, d'avoir une relation avec Dieu tellement bien réfléchie qu'elle opère des changements significatifs dans ma personne. Toute autre vie spirituelle n'a aucun sens. Si ma vie spirituelle, si ma vie avec Dieu n'opère pas de changements significatifs dans ma personne, pas immédiat, pas que les autres le voient nécessairement, mais des changements significatifs dans ma vie, dans ma personne. Par exemple, j'ai besoin de laisser la parole de Dieu pénétrer en moi tellement bien qu'elle change qui je suis. Sinon, je vais passer ma vie à écouter des prédications, je vais passer ma vie à écouter des choses sans effet. J'ai besoin de laisser ça pénétrer en moi. J'ai besoin de laisser ce que j'entends, ce que je lis, avoir un impact sur moi, sur ma vie, sur mes réflexions, sur ma façon d'être. J'ai besoin de laisser cela pénétrer. Je pense que je l'ai déjà dit ici, hein, mais je radote déjà. Hein, donc, voilà. Actuellement, nous avons la possibilité, comme chrétiens, d'écouter 15, 20 prédications sur une semaine, si on veut. C'est très facile, il y a des prédications à n'en plus finir sur Internet. Je peux, tous les jours, je peux en écouter une, et puis j'écoute, j'aligne. Mais est-ce que c'est le but de se remplir d'informations à n'en plus finir, ou est-ce que c'est préférable d'en écouter une et de la laisser pénétrer dans ma vie jusqu'à ce qu'elle apporte des changements significatifs. En écouter une et la laisser réellement impacter ma vie. Laisser Dieu mettre des choses en évidence. Avoir des moments de prière qui nous impactent significativement. On en parle beaucoup, mais c'est tellement important. Bien sûr que nous sommes appelés à prier, mais nous sommes appelés à prier de telle sorte que notre vie de prière nous impacte. Quand je parle avec quelqu'un, si je suis là en personne entier dans la conversation, ce que je dis, ce que la personne dit, m'impacte. Il se passe quelque chose en moi, si je suis pas, si je suis humain. Et bien, dans notre relation avec Dieu, nous devons aussi en arriver à avoir une vie de prière qui nous impacte. Ça ne veut pas dire que je prie 4 heures par jour. Ça veut dire qu'au moment où je prie, je laisse ce que je suis en train de dire à Dieu. Je laisse cette relation que j'ai avec Dieu m'impacter. M'impacter. Ça vous est déjà peut-être arrivé d'être là, en train de marcher dans votre maison. Certainement, ça vous est déjà arrivé. De dire, je vais faire ça. Et puis, vous vous arrêtez, vous dites, maintenant, je vais prier. Et puis, vous changez d'avis. Vous changez d'avis. Ça, c'est un changement significatif. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait une rencontre. Moi, ça m'est déjà arrivé. Hein. Je donne un exemple. Parce que moi, comme je suis pêcheur, je peux raconter des exemples. Vous n'avez pas d'exemple à donner parce que vous êtes parfait déjà. J'étais fâché contre quelqu'un, en colère. Et pour la plus légitime des raisons, la plus légitime. Je dis, ben voilà, la personne n'a qu'à, voilà. Et puis, ben, c'est l'heure de la prière. Et je m'approche de Dieu, et à la fin, je n'ai pas pu résister à me dire, ben en fait, j'ai quelque chose à faire par rapport à cette personne. Et c'est ce qui se passe quand nous rencontrons quelqu'un. La personne m'impacte. Je ne suis pas là juste en train de... Il se passe quelque chose dans la rencontre. Lorsque nous chantons au culte, est-ce que nous laissons ce que nous chantons nous impacter? Sinon, effectivement, on va dire « Ah oui, mais c'est bizarre, j'ai 15 ans de vie chrétienne, et je... Ben oui, mais si je ne fais que chanter comme ça, ça n'a pas d'impact en profondeur. »
Il est très facile d'être un chrétien hyperactif qui ne laisse pas les choses l'impacter en profondeur.
Et alors là, on devient par l'effet du temps superficiel, et on devient de moins en moins pertinent pour le monde qui a besoin d'entendre parler de nous, d'entendre l'Évangile, parfois même pas pertinent pour les gens qui vivent avec nous. Ça, c'est terrible aussi. Les gens qui vivent avec nous, oui, ils peuvent être gentils, mais ils sentent bien que, voilà, on fait beaucoup d'esbrouf, mais...
Nous avons besoin d'avoir une relation avec Dieu qui nous impacte. Cette relation avec Dieu nous met en contact avec l'Esprit de Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu connaît toute chose de Dieu, puisqu'il est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, connaît toutes les profondeurs de Dieu. C'est écrit dans 1 Corinthiens 2:10. Et ce Saint-Esprit qui est en nous, qui habite en nous, lorsque nous activons notre relation avec Dieu, il nous met en contact avec Dieu, il nous travaille, il nous change, il nous approfondit, il nous conduit à nous sanctifier, c'est-à-dire à faire des choix qui plaisent à Dieu, il produit en nous le fruit de l'Esprit et il nous fait croître.
Petit à petit, il œuvre. Il œuvre en nous. La vie chrétienne profonde, c'est celle dans laquelle on laisse le Saint-Esprit faire un travail en nous, durablement. Je laisse le Saint-Esprit me changer. Je laisse le Saint-Esprit changer ma façon de penser, ma façon de faire, ma façon de croire. Et c'est la puissance de l'Évangile. La puissance de l'Évangile, c'est la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est oui le fait que nous naissons de nouveau, que nous étions des ténèbres, nous passons à la vie, mais c'est aussi le fait que Dieu fait de nous des créatures nouvelles par son Esprit, sans cesse durant notre vie.
La profondeur dépend toujours de ce qui est caché. Les gens profonds sont toujours des gens qui ont passé beaucoup de temps cachés à faire quelque chose. Toujours. Prenons l'exemple de Jésus, par exemple. Jésus a passé 30 ans de sa vie incognito. Il a eu un temps caché de préparation et ensuite, il est sorti pour son ministère. Moïse, même chose. Moïse a eu des années dans la cour de Pharaon, puis il a été exilé dans le désert et ensuite seulement, il est sorti aux yeux de tous. Moïse a passé beaucoup de temps seul avec Dieu avant d'être exposé aux gens. L'apôtre Paul, même chose. L'apôtre Paul a été pendant 3 ans dans le désert d'Arabie avant d'annoncer la parole de Dieu. Tous les grands serviteurs de Dieu ont été des gens qui ont eu un temps de préparation par Dieu et ensuite seulement qui sont exposés. Parce qu'ils ont besoin d'abord de s'approfondir dans la connaissance de Dieu, de s'approfondir en Dieu avant de pouvoir être en bénédiction pour les autres. Et ceci est une vérité que nous connaissons tous pour la vie humaine. Les grandes personnes, les grandes personnalités sont toutes des personnes qui ont passé des heures à faire quelque chose caché. Passer des heures dans une chambre à étudier. Vous êtes à la proclamation d'un étudiant, médecin, juriste, voilà. Ben, on a forcément passé des heures dans une chambre à étudier. Vous êtes devant quelqu'un qui joue bien aux instruments. C'est quelqu'un qui a passé des heures à travailler son instrument. Vous êtes devant quelqu'un qui cuisine bien ou vous avez dans un super bon repas, hein, comme on a souvent à Jumet avec nos bonnes cuisinières. Elle a passé des heures à cuisiner. Quand on connaît bien quelqu'un, quand on a une bonne relation avec quelqu'un, on a passé des heures en général à parler avec lui. Tout ce qui est qualitatif demande du temps. Tout ce qui est profond demande du temps. Et notre vie chrétienne aussi, elle a besoin, un, de lieux cachés, de temps secret, et elle a besoin de temps, tout simplement. La vie chrétienne, elle dépend avant tout de nos lieux cachés, de nos lieux secrets. Notre vie chrétienne dépend de ce qui se passe dans nos cœurs, dans le secret de nos cœurs, de ce que nous laissons entrer ou pas dans le secret de nos cœurs. Elle dépend de notre vie de prière personnelle. Elle dépend de nos moments de remise en question. Vous voyez les moments où vous êtes assis là, où les gens croient que vous ne faites rien, mais en fait vous êtes en train de vous dire « Ah, là-dessus, je dois me remettre en question. Là-dessus, je dois changer. Là-dessus. » C'est ça, c'est là qu'elle est en train de se vivre. Lorsque je suis seul, lorsque je fais des choix, lorsque je prends des disciplines personnelles, c'est dans ces moments-là que ma vie chrétienne se vit, à l'abri des regards de tous, alors que personne ne sait ce que je pense, ce que je dis à Dieu, c'est là que je suis en train de vivre ma vie chrétienne. Premièrement, nous avons besoin de lieux secrets pour pouvoir être profond. Deuxièmement, nous avons besoin de temps, du temps. Tout ce qu'on fait bien demande du temps. Un bon repas, une belle œuvre d'art, une forte amitié, un bel immeuble, une belle réussite professionnelle, toutes ces choses-là, ça demande du temps, de l'investissement. Et nous avons besoin aussi, pour devenir des chrétiens profonds, comme Apollos, de prendre le temps. Et c'est pour ça que ça va à l'encontre de la mentalité de la société. On te demande d'aller plus vite. Allez, on y va, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Prenons le temps. Même dans l'Église, parfois, on doit prendre le temps. Prendre le temps de prier, prendre le temps de lire la Bible. Je prends le temps de lire, je prends le temps de prier, je prends le temps d'écouter la prédication. On ne comprend rien avec ce gars-là, mais je fais un effort. Je prends le temps. Prendre le temps de connaître mes frères et sœurs à l'Église. Pour être une communauté profonde avec des vraies relations authentiques, j'ai besoin de prendre le temps de connaître les autres, de découvrir qui sont les autres. C'est pour ça que je dis toujours que le temps après le culte, c'est toujours le culte. Le culte ne se termine pas à midi. Après, tu dois aller prendre le temps de connaître les autres, d'approfondir ta connaissance des autres, d'approfondir la connaissance des frères et sœurs, de ceux que tu ne connais pas, de ceux qui... J'apprends à connaître pour avoir des relations profondes avec les autres, pour ne pas juste être là et dire « Ah, ça va mon frère ?» Mais ton frère, tu ne sais rien de lui, tu ne t'intéresses même pas d'ailleurs. Prendre le temps, évidemment, dans nos familles, de connaître notre conjoint, de connaître nos enfants. Prendre le temps dans l'église, prendre le temps d'écouter les annonces. C'est des détails, mais je prends le temps d'écouter. Ah oui, donc il y a ça qui va se faire, il y a ça qui va se dire. Ah ok, ben, je sais ce qui se passe. Je ne suis pas là comme un « je sais », ok. Je prends le temps d'écouter les autres, je prends le temps de conseiller, je prends le temps de m'informer, je prends le temps de parfaire mon service pour Dieu. Peut-être qu'à l'église, ma responsabilité, c'est juste d'appuyer sur un bouton. Ok, mais je vais réfléchir comment je peux m'améliorer dans ce... Je prends le temps nécessaire pour m'approfondir dans ce que je fais. Quel que soit mon service, quel que soit l'endroit où je suis impliqué dans l'œuvre de Dieu, je prends le temps de mieux faire mon service, de l'approfondir dans la relation avec Dieu. Je prends le temps de m'informer sur les autres, je prends le temps. Abraham Lincoln avait cette expression, elle est déjà donnée, mais voilà. Si on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Si j'ai 6 heures pour couper un arbre, j'en prendrai 4 à préparer ma hache. On a besoin de se préparer dans le secret, dans le temps, dans la profondeur, avant de pouvoir être utile à Dieu. Dans toutes ces choses, Dieu nous appelle à prendre le temps. Alors, pour finir, le livre des Actes nous montre aussi que Apollos était quelqu'un, comme on l'a dit, un vrai étudiant. Il a pris le temps. Il a appris à grandir, il a parfait sa relation avec Dieu, mais c'était aussi un homme humble. Il s'est laissé enseigner par Aquilas et Priscille, qui n'étaient pas des grands intellectuels comme lui. Il s'est laissé enseigner, et parce qu'il s'est laissé enseigner, il a compris complètement le message de Jésus-Christ, et il a pu être utile, comme on l'a dit, aux autres. On a besoin aussi de cette humilité qui nous garde étudiants, qui nous garde apprenants. D'accepter ce que le Seigneur veut nous dire, d'accepter de remettre à jour nos connaissances, d'accepter d'aller de l'avant dans différents domaines. Dieu appelle son peuple à être un peuple profond. Dieu nous appelle à être des gens profonds. Il ne nous appelle pas à être un peuple superficiel, un peuple de slogans, de grandes fantaisies, de grandes déclarations, mais des gens qui ont une véritable connaissance de Dieu, qui marchent avec Dieu, qui se laissent transformer par lui. Alors que cela soit pour chacun de nous un encouragement à rester, encore une fois, des étudiants qui apprennent et qui s'approfondissent. Amen.